À voix nue, Caroline Brouet.
Serge Herberg, médecin nutritionniste, chercheur et combattant pour la santé publique.
Premier épisode, l'enfant du dixième. Bonjour Serge Herberg.
Bonjour Caroline Brouet.
Épidémiologiste de la nutrition en santé publique. Nutritionniste, vous l'avez dit. Autrement dit, vous êtes un médecin et un chercheur impliqué dans le développement de la politique nutritionnelle en France, fort de 40 années de carrière scientifique. Vous avez été professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, où nous sommes, à Bobigny.
Absolument.
Vous avez dirigé pendant près de 20 ans l'unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM. Vous avez piloté de grandes études épidémiologiques sur les relations entre alimentation et santé. Vous avez présidé pour le ministère de la Santé le programme national nutrition santé. Enfin, vous êtes le père, c'est comme ça qu'on le dit souvent, le père du Nutri-Score, ce fameux logo à 5 couleurs et 5 lettres mis en place en 2017 et que les consommateurs et consommatrices français et européens connaissent bien. C'est dire, Serge Herberg, que toute votre vie a été dévouée à la santé publique ? Combattant,
oui.
Vous l'avez dit, combattant.
Oui, tout à fait. Hein. C'est en fait une vocation très précoce, peut-être liée à mon histoire personnelle, mon enfance, mais j'ai rapidement, après mes études médicales, orienté ma carrière vers la santé publique. C'est un choix que j'ai assumé par la capacité peut-être de transmettre au-delà de l'intérêt de la santé individuelle, d'être un acteur jouant sur la santé des populations.
Si je vous demande comme ça de but en blanc, qu'est-ce qui a fait que vous avez toujours été attaché à la défense des idées et des causes que vous considériez comme justes, vous sauriez quoi répondre ?
Écoutez, je pense que c'est vraiment intimement lié à mon histoire d'enfance. Je suis né en 1951.
Donc un 24 septembre.
Un 24 septembre. 1951, 6 ans après la guerre, dans une famille d'origine juive polonaise, très décimée par l'Holocauste. Et mon enfance a été très marquée par la guerre. Alors, à la fois par la Shoah, même si on en parlait peu dans ma famille, elle était présente. Elle est d'ailleurs toujours présente tous les jours de ma vie. Et toute l'histoire qui entourait la guerre, la résistance, les héros. Tous les matins, d'ailleurs, quand j'allais me rendre à mon école sur le quai de Jemmap.
Parce que vous êtes né à Paris.
Je suis né à Paris, j'habitais le 10e arrondissement rue de Lancrie et j'allais dans une école qui était d'ailleurs dans des préfabriqués, qui étaient en fait plutôt des wagons qui avaient été récupérés. On n'était pas si loin de la guerre, donc il y avait des écoles dans des statuts un petit peu particuliers. Et donc, pour aller à cette école sur lequel j'aime map, je traversais la rue Jacques Bonsergent, Alexandre Parodi, Max Dormois. Et ces noms, qui étaient des noms de résistants, de personnes qui s'étaient opposées alors à la barbarie nazie, qui avaient été fusillées, résonnaient dans mon parcours, dans mes pensées. Les plaques des rues avaient l'avantage de mettre quelques mots dessous qui permettaient de savoir que telle personne avait été fusillée et autres. Et en discutant, et notamment à l'école, avec les maîtres et les maîtresses que j'avais à l'époque dans cette école, j'ai découvert tous ces héros qui m'ont fasciné, qui venaient en résonance avec d'autres héros que j'avais. Ma collection de livres de la Bibliothèque Verte avec D'Artagnan, le comte de Monte Cristo, Robinson Crusoe ou Jean Valjean. Et puis, tous mes autres héros, des bandes dessinées que j'allais acheter avec enthousiasme le jeudi matin, le jour où on n'avait pas classe à l'époque, avec le shérif au palon de Cassidy, l'ami des Indiens Kit Carson ou le chevalier Ivanhoé, les pieds nickelés ou Tintin, qui étaient tous des personnages qui défendaient le bien contre le mal, la justice face à l'injustice. Donc, toute mon enfance a été marquée par ces côtés de ces héros qui me faisaient rêver dans cette période juste après-guerre où, évidemment, ça balançait un petit peu les horreurs de la guerre.
Votre famille, vous l'avez dit, Serge Herberg, est d'origine juive polonaise. La plupart sont morts, ont disparu dans l'Holocauste. Je crois que c'est surtout du côté de votre mère. Votre mère est née en France et elle est la seule survivante de son côté ?
Oui, c'est la seule survivante d'une famille assez grande. Ses frères et sœurs, même ceux d'ailleurs nés en France, ont été raflés avec ses parents lors de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Son frère, un peu plus grand, qui n'avait pas été raflé, a été dénoncé quelques mois plus tard et arrêté. Tous sont morts à Auschwitz. Et donc, c'est quelque chose qui a évidemment fortement pesé dans la vision que j'ai pu avoir et peut-être l'attachement à défendre un certain nombre de valeurs de justice, de défense des personnes dans des situations les plus difficiles, les plus attaquées, les minorités. Et ça a suivi, orienté à la fois ma carrière professionnelle, mes engagements à différents niveaux. Donc c'est quelque chose qui a été très présent dans toute ma vie, qui l'est encore aujourd'hui.
On parlait de cela dans la famille, c'est-à-dire on parlait de ces disparitions, on parlait de la Shoah quand vous étiez enfant, donc ça veut dire les années 50-60 où c'était encore beaucoup trop tôt.
Alors non, on n'en parlait pas, c'était peu évoqué, oui, c'était quelque chose qui pesait dans la vie quotidienne, que l'on ressentait, cette présence de cette histoire dramatique, on n'en parlait pas ou très peu. Mes parents, en plus, n'étaient pas religieux, mais suivaient un certain nombre de fêtes. Il y avait quand même un attachement à la culture juive, que ce soit au moment des fêtes avec les plats traditionnels, mais on ne parlait pas directement. Mais les fantômes étaient là. Et c'est peut-être ça qui était le plus marquant, peut-être le plus difficile, c'est cette découverte progressive par moi-même. Parce que la difficulté peut-être pour mes parents d'en parler directement a fait que c'est au cours de la suite de mon enfance et de mon adolescence que j'ai vraiment découvert la façon dont les choses s'étaient passées.
Que faisaient vos parents ?
Mes parents étaient confectionnaires. Enfin, mon père était confectionnaire, c'est-à-dire fabriquait des vêtements. Il a fait beaucoup de métiers, mais une grande partie de mon enfance, celle que j'ai vécue dans la rue de Lancry, il fabriquait des vêtements pour enfants. Il était donc ce qu'on appelle confectionneur, qui était avec fourreur les deux grands métiers que l'on rencontrait dans l'après-guerre et même dans l'avant-guerre dans la communauté juive, surtout juive venant des pays de l'Est.
Vous avez appris un peu ? Vous avez regardé ces métiers manuels ?
Alors, j'ai regardé, ça me fascinait surtout de voir cet atelier où il y avait tous ces vêtements d'enfants, mais c'était pour moi quelque chose assez ésotérique, assez surréaliste et ça me fascinait d'un côté, ça m'impliquait en termes de respect par rapport au travail de quelques ouvrières qu'il y avait dans l'atelier et qui coupaient les vêtements. Ça ne m'a pas inspiré puisque ça ne m'a pas conduit à m'orienter vers les métiers manuels, mais ça m'a intéressé.
Serge Herberg, vous disiez que vous aviez grandi dans une famille où la religion n'était pas présente, mais les fêtes religieuses l'étaient, la culture juive ashkénaze était présente, en particulier, mais vous êtes passé un peu vite, par les plats, avez-vous dit. Est-ce que l'alimentation, je parle à un nutritionniste, donc nécessairement il faut qu'on aborde cette question, est-ce que l'alimentation était sacrée à la maison ?
Alors, elle était importante, mais dans la vision un petit peu de l'époque, surtout dans l'après-guerre, qu'il fallait nourrir les enfants pour qu'ils grandissent bien. Donc, c'était quasiment la quantité. C'était de manger des plats qui permettaient, dans l'esprit notamment de mes parents, d'assurer une croissance optimale. Et j'étais un enfant très difficile sur le plan alimentaire. J'étais un petit mangeur, je n'avais pas d'imagination à ce niveau-là, peu d'intérêt pour des plats qui sortait un peu de l'ordinaire. Ça a beaucoup changé après mon adolescence, mais à cette époque, je n'avais pas un énorme appétit. Par contre, j'étais absolument fasciné par un plat traditionnel, les bouillons avec les Kneidler, des boulettes de pain azyme, et ça reste toujours aujourd'hui pour moi un énorme plaisir. Alors, ma mère n'est plus là depuis des années, mais ma femme, qui a appris avec ma mère à les faire, ces boulettes de pain azyme, les Kneidler, les fait très très bien, aussi bien que ma mère. Je ne dirais pas si ma mère était là.
Aussi bien que votre mère, dis donc. Mais c'est votre mère qui cuisinait donc à la maison ?
Oui, c'était essentiellement ma mère qui cuisinait.
Et cette mère vous a-t-elle transmis des gestes de cuisinière ?
Non, ma mère en fait avait une énorme pudeur, m'a transmis très peu de choses. Et surtout pour elle, ce qui comptait, c'était d'apprendre, de s'éduquer, d'avoir un métier intellectuel. Ma mère qui avait le certificat d'études, ce que n'avait même pas mon père, avait un désir extrêmement important d'une promotion, mais pas une promotion sociale par l'argent, une promotion par un métier qui soit un métier noble, médecin, avocat ou pharmacien. Elle m'a pas poussé d'ailleurs à faire médecine, mais elle m'a poussé à faire des études, à travailler, à réussir à l'école pour avoir accès à une profession qui, pour elle, elle considère extrêmement noble.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez un certain nombre de héros d'enfance, comme tout petit garçon des années 50, mais vous avez peut-être omis un livre sur lequel vous êtes tombé, je ne sais pas à quel âge, vous allez nous le dire, mais c'est un peu comme dans la chanson Frida, dans la chanson de Brel, ces gens-là. Et puis, il y a Frida, pour vous, et puis, il y a eu Titanic. Vous racontez ça dans le livre qui retrace votre parcours, Serge Herberg, et puis votre combat contre les lobbies agroalimentaires. Ce livre s'intitule « Mange et tais-toi ». Il a paru en 2022 et d'ailleurs, il est écrit sur le dos de ce livre que l'intégralité des droits d'auteur est reversée à la Maison d'Izieux et au Mémorial de la Shoah. On a bien compris pourquoi désormais. Mais donc, Titanic. Alors, on parle bien de Titanic, le livre, et pas encore le blockbuster avec Leonardo DiCaprio, bien entendu. Racontez-nous.
En effet, oui. C'est en fait à 10 ans que j'ai découvert l'histoire du Titanic. Je suis incapable de me rappeler dans quel type d'ouvrage ou de coupure de journal auquel j'ai eu accès, mais j'ai découvert cette histoire qui était fascinante pour moi. Donc, le 14 avril 1912, le Titanic heurte un iceberg. Il y a beaucoup de morts, donc c'est déjà très fascinant pour un enfant. Mais surtout, je découvre une chose qui, à l'époque, me sidère et qui est toujours restée présente dans ma mémoire. C'est que je découvre...
C'est un article, là, j'ai dit un livre.
Un article ou un exercice, peut-être, à l'école. Mais me reste un tableau dans lequel je découvre que 37% des passagers de première classe sont décédés dans l'accident du Titanic. Ils sont 59% quand ils voyagent en deuxième classe et 75% lorsqu'ils voyagent en troisième classe. Et ces trois chiffres m'interpellent énormément. Et je me dis, quand même, c'est bizarre qu'on ne meure pas de la même façon selon les classes dans lesquelles on voyage. Alors, je n'avais pas conscience encore de la lutte des classes, mais je découvre à cette occasion à la fois cette lutte des classes, inconsciemment, et je propose immédiatement dans ma tête une solution. Si on meurt plus en deuxième et troisième classe, supprimons les deuxième et troisième classe, faisons voyager tout le monde en première classe. Alors je ne sais pas si c'est la préfiguration de mon engagement politique et professionnel, puisqu'en fait, je faisais de l'épidémiologie sans le savoir. L'épidémiologie qui consiste à regarder des phénomènes de santé, d'essayer de comprendre leurs déterminants. Bien là, en fait, j'analysais, je me rendais compte sans en être conscient, que les déterminants économiques étaient un facteur de risque de mortalité. Donc j'ai fait ma première étude épidémiologique, vous voyez, à 10 ans, sans le savoir, puis ça a préfiguré mon engagement sûrement politique et social.
Oui, conscience sociale, là, dès 10 ans, doublée d'une conscience et d'une culture politique lors de votre scolarité au lycée Colbert à Paris. C'est là que vous forgez votre conscience et même votre culture politique.
On est dans les années 60, il faut se rappeler qu'à cette époque, les lycéens déjà étaient très politisés et toute ma scolarité qui s'est passée au lycée Colbert a été émaillée donc de discussions entre la mort de Kennedy, le mur de Berlin. Même quand je rentrais en sixième au lycée Colbert, les morts de Charonne, la guerre d'Algérie, puis ensuite la mort de Martin Luther King, puis la guerre du Vietnam, tout ceci a émaillé ma scolarité et m'a amené à prendre conscience de la nécessité d'engagement politique. Puis surtout, à la fin de ma scolarité, est arrivé, au mois de mai 1968, les événements qui m'ont...
Vous avez 17 ans. Hein?
J'avais 17 ans. On peut imaginer à 17 ans ce que peut impacter un tel mouvement. Et là, je me suis très fortement engagé, occupant avec mes collègues de classe, le lycée Colbert, et débattant jour et nuit pendant des semaines, faisant l'exégèse des livres de Marx, de Lénine, de Bakounine, sous le drapeau rouge ou le drapeau noir, selon les moments. Et moi, qui étais un enfant jusqu'alors très réservé, très timide, j'ai découvert le plaisir du débat et de l'expression. Alors que j'étais très introverti pendant mon enfance, j'ai fini par découvrir à la fois le plaisir et une motivation sociale qui me permettait de transcender ma très grande timidité.
Et alors, outre l'inconscient qui a sans doute travaillé dans les désirs de votre maman, que vous deveniez par exemple médecin, comment, Serge Arberg, avez-vous décidé, et d'ailleurs si vous avez décidé, de devenir médecin? Est-ce que d'ailleurs c'est un concours de circonstances? Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, jusqu'à, disons, mai 68, j'étais fasciné aussi par les étoiles. Commençaient à se développer toutes ces fusées qui partaient dans l'espace. Et donc, j'envisageais d'être ingénieur dans l'aéronautique. Et puis, en mai 68, peut-être la désillusion à la fin de mai 68, qui me fait comprendre que c'est pas pour demain que je ferai la révolution, que je ferai le bien à l'ensemble de l'humanité, je me suis dit, il y a peut-être une autre façon, c'est de faire le bien au niveau individuel. Et en fait, c'est après mai 68 que réellement, même si avant j'hésitais déjà, alors je ne sais pas en effet si c'était poussé par mon environnement familial et par le désir de ma mère que j'accède à ce type de métier, mais après mai 68, c'est là que j'ai décidé vraiment très directement que l'année suivante, je m'inscrirais en faculté de médecine pour essayer là aussi d'être en cohérence avec ma volonté d'essayer d'aider au niveau individuel, puisque le niveau collectif, c'était pas évident, donc mes prochains.
Donc vous voilà à la fac de Saint-Antoine, à faire vos études de médecine avec des stages à l'hôpital Saint-Antoine, à Thenon, à Rothschild. Quels souvenirs gardez-vous de ces études de médecine?
Alors, un très bon souvenir. D'abord, je me suis forgé aussi tout un tas de réseaux d'amis, dont certains étaient avec moi au lycée et avec qui donc nous avons poursuivi nos rêves, ceux de mai 68 que l'on avait partagés, s'intéressant aux autres cultures, en voyageant. Donc, mes études médicales ne m'ont pas empêché de voyager avec mes amis qui étaient étudiants avec moi dans cette faculté et que j'avais connu au lycée. J'ai été très intéressé par mes études médicales et ces études orientaient à l'époque vers le soin. On apprenait à soigner.
On touchait un peu plus qu'aujourd'hui?
Beaucoup. Alors vraiment, c'était extraordinaire puisque, en tant qu'externe des hôpitaux, on passait 6 mois dans différents services à vraiment apprendre, diagnostiquer, à la fois en interrogeant les personnes, mais également en palpant, en écoutant. Donc, il y avait moins de technologie qu'aujourd'hui, même s'il y avait déjà un développement assez important des outils diagnostiques, mais on apprenait vraiment la clinique. Et j'ai rencontré alors parfois les pires mandarins possibles, mais aussi des grands humanistes et des grands patrons qui faisaient passer ce savoir de l'expérience clinique. C'était très fascinant et on apprenait vraiment avec des moyens encore à l'époque plutôt plus limités que ce que l'on vit aujourd'hui, à toucher le malade et à apprendre du malade, reconnaître au travers des symptômes, au travers de l'examen, les maladies et les moyens donc de lutter contre ces maladies.
En 72, Serge Arberg, vous faites d'autres choses que écouter, palper, apprendre le diagnostic et le soin à l'hôpital. Il vous est arrivé avec d'autres, avec vos amis, d'aller chercher dans des gares des valises. Qu'est-ce que c'était que ces valises ?
Oui, donc mes études de médecine, c'était aussi avec un engagement social et tout de même politique derrière. Et en vivant mes premières années de médecine, j'ai découvert aux urgences des gardes que l'on faisait en tant qu'étudiant, ces situations dramatiques, notamment ces lundis où des femmes arrivaient aux urgences parce qu'elles avaient fait des curetages dans des conditions souvent terrifiantes et qu'elles arrivaient dans un état extrêmement pitoyable. J'ai vu des décès liés à des septicémies qui ont suivi ces curetages. Et donc j'étais très marqué avec les autres étudiants qui m'accompagnaient par cette situation. Et en 1972, sous la pression de groupes d'associations qui sont formées, le groupe Information Santé, Choisir, la cause des femmes, apparaissait donc une nouvelle technique en France qui était importée des États-Unis, qui proposait de faire des avortements en utilisant des sondes dites de Karman. Et à cette époque où l'avortement était encore pénalisé, certains des internes, donc de nos maîtres avec qui on travaillait directement à l'hôpital, s'est engagé auprès de ces associations pour réaliser clandestinement ces avortements. avec mes collègues externes, nous étions trop jeunes pour le faire, mais on a décidé d'essayer d'aider. Comme ces sondes, ces fameuses sondes qui permettaient de faire ces avortements dans des conditions beaucoup plus contrôlées, avec moins de risques, n'étaient pas disponibles en France, elles venaient d'Angleterre, et on allait les chercher avec quelques autres étudiants dans des valises que l'on portait avec l'impression, là encore,
d'un acte de résistance,
d'un grand acte de résistance. Alors, évidemment, ceux qui prenaient vraiment... faisait acte de résistance, c'était vraiment ces internes qui s'engageaient et qui prenaient des risques, puisqu'il y avait une pénalisation possible, mais on avait l'impression d'aider.
Vous en gardez de la fierté de ça ?
J'en garde surtout un souvenir d'avoir une cohérence avec cette envie d'engagement, d'un engagement social et politique à la hauteur des drames que l'on voyait. Le militantisme dans les partis nous séduisait moins, on voulait être dans l'action avec mes amis. Et là, on avait l'impression d'être dans...
De faire quelque chose.
De faire quelque chose, de faire quelque chose d'utile. Alors, ça n'était pas grand-chose d'aller porter
avec
ses valises.
Avec un peu d'excitation en plus.
On est à avoir un peu d'adrénaline, c'était pas un risque énorme que l'on prenait. Mais on avait vraiment l'impression de participer à cela. En 75, grâce à la loi Veil, l'avortement a été dépénalisé, c'était un grand progrès. Et on a eu beaucoup de plaisir donc de voir qu'on n'avait plus besoin d'aller chercher ses valises. Et ce que je me dis aussi, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui avait passé son temps uniquement à se poser des questions sociales et politiques. On s'amusait bien aussi à l'époque.
Peut-être plus qu'aujourd'hui.
Plus qu'aujourd'hui. On était moins inquiets. Mmh. À la fois individuellement et collectivement. En plus, vous faisiez médecine, vous saviez que vous alliez faire des choses qui vous intéressent. Il n'y avait pas cet environnement aussi lourd et pesant qu'aujourd'hui. Donc, on s'amusait bien. On se partageait entre ce côté, parfois, engagement social et politique, et puis tout de même, un côté très festif. Heureusement.
Serge Herberg, envie d'engagement, voyage, avez-vous dit, est-ce pour cette raison que vous faites votre coopération, le service militaire à l'époque, votre coopération au Maroc, à El Jadida ?
Oui, parce qu'à la fin de mes études médicales, j'étais aussi fasciné par les French Doctors, les discours à l'époque de Bernard Kouchner, l'engagement avec la création de Médecins Sans Frontières suite à la guerre du Biafra. Tout ceci aussi me marquait beaucoup et mon intérêt pour aussi les pays du Sud, donc j'ai voyagé beaucoup en Afrique, en Amérique latine, en Asie, tout ceci m'amenait à être vraiment intéressé par cette démarche d'aller travailler pour aider les populations plutôt du Sud, des pays qu'on appelait autrefois à cette époque en développement. Et donc ça m'a amené, puisque le service militaire était encore obligatoire à cette époque, à plutôt choisir la voie de la coopération qui était pour les médecins, entre autres, l'opportunité de ne pas faire son service militaire dans une caserne en métropole, mais de pouvoir partir dans un pays. Alors c'était affecté de façon aléatoire et je me suis donc retrouvé au Maroc où j'ai passé près de 2 ans dans un hôpital et où là encore c'était une expérience très passionnante pour le jeune médecin sorti de la faculté, des bancs de la faculté, pour découvrir une autre forme de médecine et là encore retrouver cette capacité d'être en cohérence avec ma volonté d'engagement.
Est-ce que c'est là que vous avez découvert d'une certaine façon les premiers signes de malnutrition que vous ne connaissiez pas avant de partir là-bas ?
J'ai découvert beaucoup de choses. D'abord, j'ai découvert quelque chose qu'on n'enseignait pas du tout à l'époque en faculté de médecine, c'est la santé publique. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de santé qui sont liés à des déterminants collectifs. Et j'ai découvert les problématiques de nutrition. En effet, la malnutrition, les problèmes de carence, comme elles avaient disparu, même si elles avaient été associées à l'histoire même de nos civilisations européennes, il y a ces grandes maladies de carence, on ne l'enseignait plus dans les facultés de médecine françaises. Donc j'ai découvert cela, j'ai découvert aussi cette extraordinaire difficulté d'une médecine de terrain face à la misère, face à avoir peu de moyens également pour diagnostiquer. Alors c'est pour ça que la clinique prenait tout son intérêt, peu de moyens pour traiter. Et j'ai appris aussi à me forger une certaine force face à ces énormes difficultés. Alors, heureusement aidé par des infirmières et des infirmiers qui souvent connaissaient plus que moi. Et puis grâce à mes bouquins de médecine que j'avais ramenés de France et que j'avais parfois sur mes genoux lorsque je consultais, même lorsque j'étais en salle d'opération, eh bien j'ai découvert qu'on pouvait faire face à l'adversité en s'appuyant sur les autres et en s'appuyant également sur l'auto-formation.
Quand vous êtes revenu, Serge Arbeck, vous vous êtes dit quoi ? Je veux repartir tout de suite ?
Oui, j'ai eu beaucoup de mal à repartir d'abord, mais j'ai fini par repartir.
Pas tout de suite.
Je ne l'ai pas fait tout de suite parce qu'en fin de compte, j'ai eu la chance de découvrir qu'il y avait la possibilité d'apprendre un certain nombre de choses, car une formation était mise en place à la Pitié-Salpêtrière par un parasitologue très aussi impliqué dans les problématiques, alors plutôt infectieuses des pays du Sud, mais qui avait un grand amour pour l'Afrique, le professeur Marc Gentilini, qui, avec son équipe, avait proposé de monter un enseignement très ouvert aux professionnels de santé où on discutait des problématiques des pays du Sud. Et il y avait à la fois beaucoup de cours sur l'infectiologie, mais on y parlait aussi culture, on y parlait aussi sociologie, et il y avait également, une chose qui était pour moi la grande révélation, un module de nutrition. Et c'est là que je vais découvrir à la fois un homme exceptionnel qui deviendra mon maître, le responsable de ce module de nutrition, le professeur Henri Dupin. Et puis je vais découvrir réellement quelque chose qui colle totalement avec ce que j'avais en moi, sans être capable de l'exprimer, une approche de la médecine qui soit une approche de la santé publique autour d'une dimension, la nutrition, qui est un déterminant majeur de la santé. Et ça va être une double révélation qui va orienter totalement la suite de ma carrière.
Il y a un diplôme dans ce service du professeur Marc Gentilini, qui est un diplôme de santé dans le monde.
Absolument, oui, c'était un diplôme universitaire, c'était très original à l'époque. C'est pour ça que quand je suis rentré du Maroc et j'ai vu cette formation, j'ai été immédiatement m'inscrire, suivre donc les cours qui étaient validés par un diplôme universitaire. Et en effet, il y avait cette approche santé dans le monde, très orienté pays du Sud.
Ça me paraît très très large,
alors,
très général.
C'était très large, mais il faut imaginer à l'époque qu'on était sur des concepts très larges, sur des réflexions excessivement larges, mais que c'était très nouveau. Et on abordait des problèmes qui n'étaient pas du tout couverts par notre formation académique initiale, à la fois par le fait que c'était déjà une vision de santé publique avec une approche médical, biologique, mais également culturel, social, économique, agronomique, etc. Et que, d'autre part, on débouchait sur des réflexions sur les politiques à mettre en place. Donc, c'était très simple, très basique. C'est quelque chose qui se construisait. Et je pense que les enseignants de cette formation, pour certains, découvraient d'ailleurs au fur et à mesure de la formation comment la renforcer, comment l'orienter, mais c'était en effet des thèmes très larges abordés, mais qui répondaient totalement à mon attente.
Vous disiez que c'est dans ce service que vous allez rencontrer un homme important qui vous a fait découvrir la nutrition et qui est devenu votre mentor. C'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode, l'essor de la nutrition. Merci et à demain.
Merci beaucoup.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Olivia Branger, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.
Il est, comment dire,
bon?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement. Avec le soutien du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.